Rencontre spirituelle en ce 1er avril, c'est l'avant-fête, je dirais, de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Tout au long de cette année, depuis déjà l'octobre dernier, c'est le 100e anniversaire de son entrée au ciel. Elle est décédée, en effet, en 1897. Et dans exactement 6 mois, on célébrera... Un jour en retard, car elle est morte le 30 septembre, mais on célèbre le 1er octobre. On célébrera de façon fantastique à Lisieux l'entrée au ciel de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, de son nom de fille Thérèse Martin, dite Carmélite, qui est considérée comme la plus grande sainte des temps modernes par beaucoup de gens. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Le moine de la pierre qui vire qui disait que, après des discussions au sujet de Jésus-Christ, comme on en a eu durant les derniers jours, bien chacun finit par se retrouver seul, mais loin de la foule, dans un silence intérieur que rien ne vient troubler, où la liberté peut s'exercer au maximum. C'est toujours la question posée, hein, pour toi, qui suis-je? Pour toi, qui suis-je? Nous demande Jésus. Et ce moine de la pierre qui vire dit, et la réponse exige un engagement de toute l'existence. C'est ce qu'a fait Thérèse de Lisieux. Toute son existence est engagée. Vous savez qu'on attend 2 millions de pèlerins pour le centenaire de son décès. 2 millions de pèlerins durant cette année. Ça va commencer ces jours-ci avec le printemps, là, surtout, pour commémorer cette grande fête à cette jeune carmélite de 24 ans, morte de tuberculose, il y a 100 ans, canonisée en 1925. Alors, les week-ends de réflexion spirituelle vont être innombrables là-bas, et les festivités vont être immenses. Elle est l'auteur de L'histoire d'une âme. Savez-vous que ce livre est devenu un véritable best-seller à travers le monde? Il est traduit en 42 langues. C'est l'ouvrage le plus lu après la Bible, ou du moins qui se vend le plus après la Bible en France et dans bien des pays. Mais par contre, on nous assure à Lisieux que 70% des visiteurs ne connaissent ni la ville de Lisieux quand ils y arrivent. Ils viennent comme ça, poussé par un instinct curieux. Ils ne connaissent pas Thérèse, et encore moins son message, évidemment. Alors, ils ont installé là-bas, à Lisieux, un centre de renseignement qui sera, paraît-il, très efficace cette année. Avant de commencer, je tiens à remercier Mme Françoise Fréchette qui m'a envoyé des documents extrêmement intéressants sur Thérèse de l'Enfant Jésus. En présentant cette émission consacrée à la plus grande sainte des temps modernes, selon Saint Pie X, je voudrais que nous nous tournions vers l'avenir. Hein? Parce que déjà, c'est le centenaire de l'entrée dans la vie, comme on dit, dans la vie éternelle de cette carmélite, qui a marqué profondément le monde. Pourquoi l'a-t-elle marqué? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. On pourrait vérifier ensemble la vérité de la parole du fameux père Congar, ce dominicain, un des plus grands de ce siècle, que j'ai eu la chance d'interviewer à l'émission Rencontre à la télévision de Radio-Canada quelquefois. Eh bien, elle a été, selon le père Congar, un des phares allumés par Dieu au seuil du siècle atomique. Depuis 1898, lors de l'apparition de L'histoire d'une âme, son livre, le best-seller, eh bien, des millions de gens dans le monde doivent à cette jeune fille morte inconnue des guérisons physiques et spirituelles. Et même des conversions, des protections, des faveurs innombrables. On ne peut pas tout recenser, ça c'est le secret de Dieu. Ce n'est pas pour rien que cette statue est présente dans les églises du monde entier. Et que Pie XII l'a déclaré le plus grand thaumaturge, c'est-à-dire celui qui fait des miracles ou qui obtient des miracles de Dieu, la plus grande thaumaturge des temps modernes, selon Pie XII. Et pourtant, aujourd'hui, il y a un paradoxe. Cette sainte si connue, elle est très méconnue. Je vais essayer aujourd'hui de mieux vous la faire connaître pour ceux qui la connaissent moins. Hein. Parce que pour beaucoup, elle est quoi? La sainte aux roses, on la voit avec des roses dans les mains. Celle qui répand sur le monde les bienfaits de Dieu. C'est une de ses fonctions dans l'Église, qu'il ne faut pas nier, c'est sûr. Mais un miracle, s'est jamais fermé sur lui-même. C'est un signe qui révèle une réalité plus fondamentale, plus profonde. Thérèse a pour mission de révéler les profondeurs de l'amour miséricordieux, les profondeurs de l'insondable Trinité. Je vais vous faire une émission spéciale bientôt sur la Trinité. Car la Trinité nous concerne tous. Et elle nous révèle la miséricorde de Dieu. Toute sa vie, tout son message, ce qu'on appelle sa petite voix, sont un appel à l'espérance totale dans ce Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Père. Elle est la plus forte réponse au désespoir de l'homme accablé par son péché, par le mal dans le monde. Elle montre, comme dit Mgr Gaucher, un grand spécialiste, un carme grand spécialiste de Thérèse l'Enfant Jésus, elle montre que la sainteté est possible pour le pauvre, pour le paumé, pour le malade. Elle ouvre de grands horizons sur les mystères de Dieu. Elle ouvre des horizons sur la personne de Jésus-Christ, sur l'Église, et sur Marie aussi, sur l'écuménisme. Et que c'est beau aussi ce qu'elle dit sur l'Eucharistie. Un jour, je vous ferai une émission spéciale sur l'Eucharistie et Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais aussi sur la mission. Elle est la patronne des missions, elle, qui était enfermée dans un monastère pendant quelques années à peine. Elle annonce d'ailleurs le Concile Vatican II. En un mot, Thérèse de Lisieux a un message parfaitement adapté au monde moderne et reconnu par nombre de grands théologiens. Et c'est bien pour cela que les Carmes à Rome en avril 1991, puis les évêques français à Lourdes en octobre 91, la même année, ont voté favorablement, imaginez, pour demander au pape qu'elle soit déclarée docteur de l'Église. C'est assez étonnant. Dès 1932, donc, 7 ans après sa canonisation, la demande en avait déjà été faite au pape Pie XI. Alors il est clair que ce titre n'apportera absolument rien à Thérèse, mais il va apporter beaucoup à l'Église et aux hommes, car nous avons un besoin urgent, oui, un besoin urgent d'une spiritualité vraie, fondée sur l'Évangile, puis surtout accessible à tous, là. Pas une sainteté là, qui est tellement incroyable qu'on peut, on se dit, mais il n'y a rien à faire, je ne serai jamais un saint. Non, avec elle, on se dit, mais alors c'est possible. La révolution spirituelle qu'elle a apportée, Thérèse, à notre siècle, elle est présente dans tous les secteurs de l'Église. Ça n'a pas encore porté tous ses fruits. Il faut, pour cela, la prendre au sérieux. Il faut la prendre au sérieux. Lire Thérèse, la relire, l'approfondir, la traduire, la prêcher, vivre sa voix. C'est une tâche immense. Et un grand spirituel, notre théologien le disait déjà en 1923, 2 ans avant sa canonisation, cette glorification de la petite sœur est la forme sous laquelle je conçois le mieux la glorification de Jésus lui-même. C'est le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, justement, un carme qui disait ça. Je vous ai fait une émission magnifique, j'espère. On me l'a dit, en tout cas, c'était très beau. C'était le 27 mars de l'an dernier, il y a un an, que j'ai fait ça sur le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Et jamais Thérèse n'a parlé en vain, parce que ses paroles exprimaient la vérité de sa vie. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a eu dans la peau, elle, cette adolescente de 14 ans, pour remuer comme ça le ciel et la terre, hein? Pour aller enterrer sa jeunesse derrière des grilles d'un Carmel, elle est entrée là à 15 ans et quelques jours. C'est un amour fou qui la brûle, et qui a pour nom Jésus, cet amour. Je voulais aimer Jésus avec passion, c'est ce qu'elle écrit. Et pour lui, elle est prête à traverser les flammes. Alors un soir de Pentecôte, elle se décide à faire sa grande confidence à son père, qu'elle appelle son petit père chéri. On est à la fin du 19e siècle. Il y a des expressions comme ça un peu doucereuses, mais qui sont charmantes. Et plus rien désormais ne l'arrêtera, hein. Elle a un oncle, Monsieur Guérin. Je vais vous parler de la fille de ce Monsieur Guérin dans 2 semaines exactement, qui est devenue carmélite, elle aussi. Alors, son oncle, qui est assez sévère, qui l'intimide, l'évêque de Bayeux aussi, dont dépend la ville de Lisieux, il lui sourit, mais rien ne l'arrête. Alors elle fait relever ses cheveux pour paraître plus âgée, ça fait sourire l'évêque, justement. Elle va même jusqu'à Rome avec son père pour voir le pape Léon XIII, hein, elle a 14 ans. Puis elle ose lui parler, puis enfreint le protocole lors d'un pèlerinage à Rome, transgresse les règles. Puis, il n'y a rien à faire. Personne n'accepte, mais finalement, il n'empêche que le 9 avril, donc, ça va être l'anniversaire dans quelques jours, dans 9 jours, en 1888, elle entre finalement au Carmel, oui, à 15 ans et 3 mois. Et quand elle franchit la porte de la clôture, la famille sanglote, évidemment. Je me souviens, quand je suis entré au cloître, ma mère ne pleurait pas, moi. Elle était très heureuse, et moi donc, c'était le plus beau jour de ma vie. Et Thérèse ne pleure pas, mais son cœur bat avec violence. À quel moment, celui-là, il faut y avoir passé, dit-elle, et c'est vrai. Quand on est passé par là, on ne l'oublie jamais de sa vie. Le soir, elle se répète, et pour toujours, toujours que je suis ici. Alors il y a une joie, une mystérieuse paix qui l'habite. Et Thérèse s'habitue tout de suite à sa nouvelle vie. Elle écrit, « Tout me semblait ravissant. » Les illusions? Le bon Dieu m'a fait la grâce de n'en avoir aucune en entrant au Carmel. Non, c'était pas un caprice d'enfant. Thérèse veut entrer dans ce désert, comme on pourrait appeler un Carmel, pour donner à Jésus, son bien-aimé, la preuve de son grand et unique amour. Elle dit, « Jésus, je voudrais tant l'aimer plus qu'il n'a jamais été aimé. » Et Thérèse écrit ces mots 9 mois après son entrée. Elle vient d'avoir 16 ans. Alors Thérèse ne sait pas alors qu'elle va avoir besoin de 9 années pour arriver à devenir la plus grande sainte d'État moderne. Pour commencer, le grain est mis en terre, hein, puis c'est le temps de l'enfouissement, et la voilà donc mêlée aux 26 religieuses de la communauté, parmi lesquelles il y a ses sœurs, Pauline et Marie-Martin. Elles sont 3 sœurs déjà, il y en a une 4e qui va rentrer, Céline, plus tard. Thérèse veille à garder ses distances avec ses propres sœurs. Elle est venue pour Jésus seule. Elle ne veut pas avoir de faveur. Elle fait du raccommodage, du balayage, des couloirs et des escaliers, du jardinage aussi pour faire un peu d'exercice physique. La prieure, Mère Marie de Gonzague, ne l'aménage pas. Elle veut vraiment la former. Elle ne veut pas qu'elle devienne un petit joujou de la communauté. Et d'autres sœurs sont plus douées qu'elle. Se privent pas parfois pour le lui faire sentir. Petite mesquinerie. Et Thérèse écrit dans une lettre qu'elle ressemble à une petite balle criblée de piqûres d'épingle. Et si encore Jésus la consolait dans la prière, mais son grand ami, Jésus, se tait et la laisse dans la chasseresse. Puis dans ces conditions, les 2 heures de prière silencieuse que font les carmélites tous les jours et qu'on appelle l'oraison doivent lui paraître bien austères. Mais parfois, le sommeil s'empare d'elle. Puis là, dans la monotonie du premier hiver, le 10 janvier 1889, il y a une trouée de lumière, c'est pour sa prise d'habit. Thérèse a la joie d'avoir auprès d'elle, qui? Son père. Monsieur Martin conduit sa fille, fiancée de Jésus. Elle est parée d'une longue robe blanche, comme pour un mariage, avec ses cheveux blonds, couronnés de lys, puis retombant sur ses épaules. Elle revêt donc le costume des carmélites, c'est une épaisse bure, comme on dit, avec le scapulaire du Carmel, le voile blanc des novices. Et puis, bien vite, Thérèse comprend que son bien-aimé est un époux de sang. Et 1 mois après la fête, M. Martin, son père, doit être interné dans un asile psychiatrique. Et ce jour-là, elle dit, je n'ai pas dit pouvoir souffrir davantage. Et ne dit-on pas que en ville... Ben, on dit que M. Martin est devenu fou, mais c'est pas exact. Que ses filles entrent au Carmel en sont responsables, et surtout la petite dernière, là, qu'il adorait. C'est alors que Thérèse commence à signer ses lettres. Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Et nous verrons la suite tout à l'heure. La Sainte Face, qu'elle porte comme nom maintenant, cette image va la poursuivre, comme le cri de Jésus en croix. Quel est ce cri? C'est « J'ai soif ». Elle est dévorée par ce cri de Jésus. Elle veut répondre à la soif de Jésus. Et quel meilleur chemin pour ce chemin de croix, pourrait-on dire, pour préparer sa consécration totale et définitive qui aura lieu le 8 septembre 1890 en la fête de la Nativité de Marie, de la mère de Jésus. La veille, elle est prise de panique. Elle se dit « Si je n'avais pas la vocation ». Mais au matin de ses noces, comme elle dit, elle se sent inondée par un fleuve de paix. Et sur son cœur, elle porte un billet de 24 lignes. On y lit ceci en particulier. « Jésus, mon époux divin, prends-moi, avant que je fasse la plus légère faute volontaire, que je ne cherche que toi seul. » Elle aura bientôt ses 18 ans, puis elle vit des années bien obscures, mais ne laisse échapper aucune occasion de prouver son amour. Alors, il s'agit de rendre en secret des services bien simples, bien humbles, et de prendre la place comme au lavoir, disons, au lavoir, vous savez, il lave le linge dans un... comme une sorte de... des plaques de pierre. Elle lave le linge tout ensemble, c'est le lavoir. Alors, elle prend la place que les autres évitent. Elle présente toujours un visage souriant quand elle a le cœur gros. Elle se laisse accuser à tort. Il y a des heures, elle dit, où tout semble m'abandonner. C'est alors qu'un prédicateur, puis pourtant la, pas très très aimée des sœurs, la comprend à merveille, c'est curieux, hein? Il lance à pleine voile, dit-elle, sur les flots de la confiance et de l'amour. La confiance et l'amour sont deux des bases de sa spiritualité avec la miséricorde, hein? Confiance, je vous en ai parlé le 19 mars à la fête de Saint-Joseph, la confiance. L'amour, je vous en ai parlé le jeudi saint dernier. Ces deux mots seront les derniers que Thérèse écrira d'ailleurs au début de juillet 1897, quelques mois avant sa mort, quand le crayon va lui tomber des mains. C'est comme une vraie signature de ce qui lui tient le plus à cœur. Hein? Alors le temps presse et durant l'hiver 91-92, il y a une épidémie d'influenza qui s'abat sur la communauté. Alors, elle reste valide, sa santé est bonne, elle soigne les malades, puis elle ensevelit les mortiers des sœurs qui meurent. À 19 ans, elle surprend la communauté, ou surtout celles qui la connaissent le mieux, par sa maturité de femme déjà. Mais c'est dans son âme surtout, comme une espèce de course de géant qui est commencée, qui a commencé à 14 ans. À 20 ans, elle est désignée par sa sœur Pauline, mère Agnès, qui vient d'être élue prieure. À 20 ans, elle est donc nommée comme assistante de la maîtresse des novices, parce qu'elle se sent dépassée, alors elle s'en remet d'autant plus à Dieu. Mais heureuse, ces novices, qui sans s'en douter, reçoivent les premiers éléments d'une doctrine toute neuve, qu'on appelle toujours, je vous le rappelle, la petite voix, bien droite, hein, qui va se répandre dans le monde entier comme un parfum d'évangile. Être un enfant devant Dieu, reconnaître sa faiblesse, voilà. Espérer aveuglément en la bonté d'un Dieu qui étendrait ses miséricordes, c'est le secret de sa vie spirituelle. Je le répète, espérer aveuglément en la bonté d'un Dieu qui étendrait ses miséricordes. Et après des années d'enfouissement et souffrance, eh bien Thérèse de Lisieux a fait sa découverte. La sainteté, c'est quoi? C'est pas une sorte d'Himalaya à gravir au piolet, vous savez, cette espèce d'instrument que les alpinistes ont dans la main pour s'accrocher, là. Mais elle dit que c'est un ascenseur. Un ascenseur? Oui, c'est une confiance éperdue en Dieu qui est amour. Alors, sûre de cette tendresse, Thérèse commence une véritable année soleil, l'année de ses 22 ans. On lui demande de rédiger l'histoire de son âme. Son manuscrit ne sera qu'un chant. Le chant des miséricordes du Seigneur. Et en juin, une inspiration soudaine la saisit durant l'Eucharistie de la fête de la Trinité. Permettre à Dieu de laisser déborder les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en lui. Et dans un grand élan d'amour, Thérèse s'offre comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux. Il faut prendre ça pas dans le sens tragique, là. C'est dans le sens d'un élan d'amour, victime d'Holocauste, c'est ça que ça veut dire, à l'amour miséricordieux de son Dieu. Une grande date. La jeune carmélite se sent envahie par des océans de grâce, et quelques mois encore, elle va exprimer sa vocation d'amour universel en des mots brûlants qui ne sont pas prêts de s'éteindre. Elle dit, et ça, vous le connaissez ce mot, hein, « Ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation c'est l'amour. » Et cet amour brûle dans la nuit. Il lui reste 18 mois à vivre. Mais à 16 ans, Thérèse parlait de l'unique nuit de la vie. À 23 ans, elle apprend ce que peut être la profondeur de la nuit pour ceux qui n'ont pas la foi. Le grand soleil de sa foi connaît une véritable éclipse, des pensées l'obsèdent. Es-tu sûr d'être aimé de Dieu? Est-il venu te le dire? Et après la mort, peut-être qu'il n'y a rien d'autre à attendre que la nuit du néant? Elle se pose toutes ces questions. Et c'est pendant cette nuit de l'âme, là, qu'elle comprend pour de vrai ce que c'est que d'aimer son prochain, alors même qu'une sœur a le talent de lui déplaire en tout et de la fatiguer, là. Ces gentillesses font croire à cette sœur qu'elle est plus aimée que les autres. Elle pense que ces gens qui ont des caractères incorrigibles ont besoin de plus d'amour. Comme les malades, de plus d'attention. Non. La sainteté de la petite Thérèse, c'est pas du toc, c'est pas de la niaiserie comme certains pensent. D'ailleurs, elle a horreur, comme elle dit, de la feintise. Vous savez, les feintes, les simulacres, le faire semblant. Non, non, elle a horreur de ça. Et si l'on ne veut pas la vérité, il ne faut pas venir la trouver. En attendant, la petite Thérèse ne se fait pas de complexe pour donner des conseils à des missionnaires fringants qui viennent au couvent. Et alors, sa petite voix se rend jusqu'en Chine. En peu d'années, le monde entier pourra se nourrir de cette doctrine que les papes vont vanter et qu'ils vont aller jusqu'à conseiller même aux âmes. Et maintenant, c'est l'heure de la vérification, la fin de sa vie, épreuve de la foi, épreuve de la confiance sous les assauts de la souffrance qui, durant plusieurs mois, vont ravager sa jeunesse. La maladie va labourer son corps, la tuberculose, avec ses fièvres et ses crachements de sang, qui va ronger ses deux poumons, l'un après l'autre, en attendant que ses intestins se prennent à leur tour. Et alors, pour faire une sainte à 24 ans, ça suppose que son âme soit comme brûlée. Elle sera de l'or pur. Elle écrit d'ailleurs, « Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je vous demande d'être vous-même ma sainteté, Seigneur. » Et durant 3 mois, elle se prépare à entrer dans la vie éternelle. On trouve des mots d'enfant chez elle, de l'humour, des paroles de sagesse. Elle dit à un moment donné, « Je suis un bébé, mais qui est un vieillard. » Avec des éclairs prophétiques, elle dit, « Je sens que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime. » Aimer. Elle n'aura pas d'autre mot pour mourir. Mon Dieu, je vous aime. Ce sont ses dernières paroles. C'était le 30 septembre 1897, à 7h20 du soir. Vous vous demandez peut-être combien il y a de carmels dans le monde. Mais il y en a des centaines. Seulement en France, il y en a plus de 100. Nous en avons plusieurs ici. Il y en a un ici à Montréal. Y êtes-vous déjà allé? C'est au métro Laurier, sortie nord. Vous montez la rue Saint-Denis un peu, vous allez arriver à la rue du Carmel, et là, vous pouvez aller voir les carmélites. Ah, c'est quelque chose, Carmel. Carmel, c'est aussi marial. On y est mené pour écouter, recevoir et laisser germer la parole de Jésus, à l'exemple de la Vierge Marie. Et c'est au XVIe siècle, en Espagne, que Sainte Thérèse d'Avila, je vous le rappelle, avec Saint Jean de la Croix, ont donné au Carmel son visage des temps modernes, et à peu près rien n'a changé. Et toutes les petites communautés qui se sont fondées dans le monde. C'est structuré sur un horaire strict, qui comporte 2 heures de prière silencieuse, en plus de la prière au cœur, puis de la messe. Et la journée de la Carmélite est marquée par la solitude et l'amour. Les Carmélites sont au cœur de l'Église. Elles sont l'amour au cœur de l'Église. Il y a un cri de Thérèse de l'Enfant Jésus qui est admirable. C'est « Jésus est mon unique amour ». Et ce cri d'amour, on l'a retrouvé après la mort de Thérèse, gravé avec une pointe. Ou sur la cloison de sa cellule, c'est assez surprenant, hein? Faisait des graffitis. Sans doute avait-elle voulu protester ainsi de sa foi à un moment où la tentation de douter de l'au-delà se faisait plus cruelle, plus incisive, comme dit le père Découvement. Je m'inspire d'un texte de l'abbé Pierre Découvement, et je tiens à vous signaler en passant, avant de l'oublier, qu'il a publié un livre fantastique. On peut le trouver chez Novalis, aux éditions du Cerf. C'est un peu cher, mais c'est extraordinaire. C'est rempli de centaines, de centaines et de centaines de photos, de documents, en couleur, c'est admirable, et ça s'intitule « Thérèse et Lisieux ». C'est un ouvrage exceptionnel. On peut trouver donc chez Novalis, ça a été publié par les éditions du Cerf, et Novalis. Vous y trouverez tout là-dedans. C'est énorme, c'est immense, ce bouquin. Ça doit coûter probablement 70 $, mais vous en aurez pour votre argent. C'est un ouvrage exceptionnel que je ne saurais trop vous recommander. Le texte est admirable, mais c'est surtout des photos et des photos et des documents. Vous aurez un plaisir à lire et à parcourir. Alors je reviens sur ce cri d'amour, « Jésus est mon unique amour », qu'elle a écrit sur la cloison. On va sans dire que Thérèse considère son amour pour Jésus comme une petite réponse de sa toute petite âme à cet amour incommensurable de celui qu'elle appelle « mon maître adoré ». Un amour qu'elle entrevoit surtout chez Jésus dans les deux mystères dont elle porte le nom. Elle s'intéresse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Elle admire la condescendance du Verbe qui n'a pas dédaigné de venir habiter parmi nous comme un petit enfant, en se faisant tout petit enfant dans la crèche de Bethléem. Mais elle s'extasie surtout devant le visage de celui qui continue à nous aimer alors même que nous le clouons à la croix. Elle écrit à sa sœur Céline, « Jésus brûle d'amour pour nous. Regarde sa face adorable. Regarde ses yeux éteints et baissés. Regarde ses plaies. Regarde Jésus dans sa face, et là tu verras qu'il nous aime. » Thérèse entend répondre à cet amour infini de Jésus pour elle par trois attitudes qu'elle nous invite à adopter à sa suite pour que nous puissions dire nous-mêmes en vérité que Jésus est notre unique amour avec elle. On pourrait dire ça avec elle si on suit ce qu'elle nous enseigne. La première façon des trois, là, c'est d'aimer Jésus et de nous laisser attirer par lui. Par tout l'amour qui se dégage de sa personne lorsqu'on prend le temps de le regarder, agir et parler dans les évangiles. Thérèse porte d'ailleurs les évangiles toujours sur elle, afin d'en lire souvent un passage et d'y respirer les parfums de la vie de Jésus. Il se vend de petits évangiles qui sont facilement lisibles. On peut mettre ça dans sa poche ou dans son sac à main et lire ça dans le métro. Pourquoi pas dans le métro? C'est l'occasion de tout trouver. Et elle sait, Thérèse, qu'en se laissant attirer à l'odeur des parfums de son bien-aimé, elle entraîne également vers lui ceux et celles qui lui sont unis dans le mystère de la communion des saints, car une âme, dit-elle, embrasée d'amour, ne peut rester inactive. Alors voilà, nous, la première façon d'aimer Jésus, lui permettre de réaliser dans le fond de notre cœur la promesse qu'il a formulée quelque temps avant sa passion. « Quand je serai élevé de terre, dit Jésus, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et Thérèse nous invite à nous laisser, comme elle, fascinée par le visage de Jésus, le visage du Christ. « Je voudrais me faire magnétiser par notre Seigneur. » Elle dit ça un jour à sa novice, sœur Marie de la Trinité. « Elle voudrait n'avoir plus Dieu que pour lui. Aller se cacher en sa face et s'y laisser plutôt transfigurer à son image. » Mais voici maintenant le deuxième mouvement de l'amour, que Thérèse a reçu la grâce de bien comprendre et de vivre. Aimer Jésus, c'est aussi quoi? S'ouvrir à son action transformante. Laisser le rayonnement de son visage brûler nos péchés puis guérir nos blessures. Elle écrit, « Si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toutes choses en lui-même. » Elle a un style solide. Et pas de la niaiserie. Les gens qui croient ça sont... Ils l'ont pas lu. Thérèse a de plus en plus compris que c'est faire plaisir à Jésus et par conséquent l'aimer, que de lui permettre de réaliser en nous son œuvre de salut. Jésus, pour elle, c'est un chirurgien hors pair. Il ne demande qu'à nous greffer un cœur nouveau, un cœur doux et humble comme le sien, qui nous rende enfin capables d'aimer en vérité. Le 9 juin 1895, donc un peu plus de 2 mois avant sa mort, Thérèse comprend mieux que jamais le cœur de l'Évangile. Dieu est infiniment heureux lorsqu'il rencontre une âme qui s'ouvre sans réticence au débordement de son amour miséricordieux. Et s'offrir comme une victime d'Holocauste, lui demander de transformer notre âme en fournaise d'amour, c'est ça ce qu'elle veut dire, c'est lui faire grand plaisir. Il n'y a rien de tragique là-dedans, d'abominable, quand elle dit victime de l'Holocauste. Il faut prendre ça dans le bon sens positif de l'amour. C'est un vocabulaire difficile. C'est donc lui faire un grand plaisir, c'est lui permettre de ne pas comprimer en son cœur les flots de tendresse infinie qui sont enfermés en lui. Oui, c'est aimer Dieu que de s'ouvrir plutôt à lui, d'aller vers lui avec une âme de pauvre, une âme assoiffée, vous savez, comme le cerf altéré, aspirant après l'eau vive. Pour dire, Seigneur, viens! Et ce cri d'espérance est déjà un acte d'amour, car nous plaisons énormément à Dieu lorsque nous nous offrons à l'invasion de sa tendresse. 2 ans avant son acte d'offrande, le 6 juillet 1893, Thérèse écrivait déjà à Céline, « Le mérite ne consiste pas à faire ni à donner beaucoup, mais plutôt à recevoir à aimer beaucoup. Pour ça, je vous dis souvent qu'une prière qu'il faut crier, c'est « Esprit Saint, prends-moi. Jésus, viens !» Et si vous dites ça en marchant dans la rue, n'importe où, dites-le pas trop à haute voix, les gens vont se retourner. Dites-le dans le fond de votre cœur. L'amour ne s'identifie pas forcément avec le don. Il peut consister à recevoir, dit-elle. Et Thérèse, d'en donner immédiatement la raison, a dit « Quand Jésus veut prendre pour lui la douceur de donner, ce ne serait pas gracieux de refuser, ce ne serait pas gentil. Hein? » Jésus veut prendre pour lui la douceur de donner. Et la première chose, si on résume, la première chose qui nous est demandée, la première façon de plaire à Dieu et de l'aimer, de nous laisser aimer par lui, soit en nous laissant fasciner par son visage, c'est le premier mouvement, soit en nous laissant envahir par les flots de sa tendresse, c'est le deuxième mouvement, et on peut comparer ces deux attitudes aux deux phases de notre respiration. Tantôt, notre amour pour Jésus ressemble à une expiration, c'est-à-dire que nous nous laissons emporter par le souffle de l'Esprit vers Jésus, nous le laissons nous fasciner, et tantôt, notre amour ressemble à une inspiration, nous nous laissons alors envahir par le souffle de son esprit, et nous lui donnons la joie de nous remplir de tout l'amour qui est en lui. Mais attention, ce serait trahir la pensée de Thérèse si nous en restions là. Il y a chez elle une troisième manière de vivre son amour pour Jésus. Et n'oublions pas ce qu'elle chante dans son dernier poème, « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ». Alors Thérèse s'émerveille à l'idée que Jésus se fait aussi le mendiant de notre pauvre amour. Oui, il attend que nous lui offrions, comme elle dit, c'est le langage de l'époque, la rose de notre sourire, chaque fois que nous sommes blessés par les épines de notre vie. On peut manquer son coup à certains moments. On peut offrir notre sourire comme ça pendant 2 ans, et tout à coup, boum, on tombe, on devient patient. Mais il faut se relever, se confesser. Et ces roses, il en a besoin, dit-elle, pour le salut des pécheurs. Il ne faut pas les lui refuser. Et bien sûr, ce ne sont pas nos souffrances en elles-mêmes qui plaisent à Jésus. Elle insiste beaucoup là-dessus, mais le chant que nous faisons monter vers lui au cœur de nos épreuves, le chant de notre amour et de notre reconnaissance. Je disais ça à ma mère sur son lit de mort, « N'offrez pas vos souffrances au bon Dieu, non, non, non. Dites-lui que vous l'aimez. En dépit de tout, vous êtes sûr de son amour et vous répondez à cet amour. » Thérèse ne veut donc laisser échapper aucun sacrifice, aucun regard, aucune parole. Elle veut profiter de toutes les petites choses et les faire par amour. Elle veut souffrir par amour et même être heureuse par amour. Et ici, Jésus n'apparaît plus comme celui qui donne, mais comme celui qui reçoit, qui attend notre réponse d'amour. Et dans cette perspective, écrit Thérèse, le plus grand honneur que Dieu puisse faire à une âme, ce n'est pas de lui donner beaucoup, mais de lui demander beaucoup. Mais Thérèse nous rappelle ici, c'est important ça, que Dieu nous aime tellement qu'il nous donne la possibilité de lui rendre amour pour amour. Bien oui. La possibilité de lui rendre amour pour amour. Pas d'amitié authentique sans la possibilité de cet échange. Or, comme Jésus l'a dit avec force à ses disciples le soir de la scène, on l'a célébré jeudi, nous sommes vraiment ses amis. C'est dans Saint Jean, chapitre 15, verset 15. Nous sommes vraiment ses amis. Il va sans dire que Thérèse n'oublie pas pour autant que c'est Jésus lui-même qui pose notre main d'enfant, le trésor de générosité que nous lui offrons. Et que c'est lui seul qui peut donner une telle valeur à nos moindres sacrifices. Elle écrit, et je trouve ça très important, et pourtant ça a l'air naïf, « Ramasser une épingle peut convertir une âme. » Quel mystère, dit-elle. Ah, c'est Jésus qui peut donner un tel prix à nos actions. Il y a là un grand équilibre de la pensée de Thérèse Lisieux. Elle est simple, mais elle n'est pas simpliste. Moi, j'ai pensé, quand j'étais plus jeune, qu'elle était un peu simpliste. Que je regrette d'avoir pensé ça. Elle sait que Jésus est à la fois celui qui nous demande de l'aimer, en nous laissant aimer par son amour sans mesure, et celui qui réclame de nous une générosité de tous les instants. Il n'est pas question pour Thérèse de dissocier ces deux composantes de l'amour, telles que Jésus lui-même les exprimait le jeudi saint. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez donc en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. » Mais garde-t-on ces commandements, mon Dieu? Pour que Jésus devienne notre unique amour, il faut à la fois demeurer en son amour, c'est-à-dire se laisser fasciner et envahir par lui, puis évidemment observer ses commandements en ne lui refusant rien. Cette spiritualité est basée sur trois mots, l'amour, la confiance et la miséricorde. Et ces trois mots font partie du vocabulaire de Thérèse. Ce sont des mots familiers. Elle les emploie de très nombreuses fois tout au long de ses écrits. Si on calcule, ça a été calculé, elle répète le mot amour 521 fois. Le verbe aimer 626 fois. Il fallait que l'amour ait une force d'un torrent pour déborder si souvent dans ses textes. Au dire de Saint Jean de la Croix, d'ailleurs, si l'amour t'emporte, ne demande pas où tu vas, mais va. C'est beau, ça. Et c'est bien ce que fait Thérèse. Elle passe plus de temps dans l'accueil de l'amour de Dieu et dans la vie de cet amour avec ses sœurs que dans les discours sur l'amour. Et avec des yeux grands ouverts sur le monde, sur la création, mais Thérèse regarde et s'émerveille. Elle ne veut faire qu'une seule chose, commencer à chanter ce qu'elle doit redire éternellement, les miséricordes du Seigneur, comme on dit. Et avec un cœur brûlant d'amour, elle reconnaît que c'est Dieu qui aime le premier, qu'il donne son amour gratuitement, et que l'aimer consiste à se laisser aimer. Oui, l'aimer consiste à se laisser aimer. C'est comme une révolution tranquille et silencieuse, empreinte de reconnaissance à l'adresse de Dieu Créateur. Elle écrit à Dieu, « Nous recevons tout de ta main ». La bonté de Dieu dépasse toute attente, elle accompagne la vie. Elle écrit à chaque instant, « Tu me suis, tu me gardes quand je t'appelle. Oh, jamais tu ne tardes. » Ce Dieu, qu'à la fin du 19e siècle, on craint plus que l'on aime, et puis encore des gens qui vivent ça aujourd'hui, mais Thérèse ose le nommer dans son vocabulaire à elle, « Papa, le bon Dieu », puisqu'elle peut s'appeler l'œuvre de son amour. Nous sommes l'œuvre de l'amour de Dieu. Et avec un tempérament d'audace jusqu'à l'héroïsme, Thérèse de Lisieux veut s'habiller en héros pour marcher auprès des plus grands saints et passer son temps à aimer Jésus et à le faire aimer. Et avec un réalisme évangélique surprenant, elle ne se berce pas d'illusions. Sa contemplation de l'amour de Dieu ne s'installe pas sur des nuages d'une évasion mystique, non. Une fois, on rencontre Thérèse au jardin, regardant les larmes aux yeux, une poule et ses poussins, vous savez. Puis elle dit, j'ai pleuré en pensant que le bon Dieu me gardait sous ses ailes. La simplicité de cet événement basse, court, suffit pour nous faire comprendre que contempler Dieu, amour, à la manière de Thérèse de Lisieux, c'est vivre avec un cœur d'enfant largement ouvert à ce Dieu qui irradie et réchauffe comme le feu dans les hivers de nos vies, comme elle dit. Le plan de Thérèse de Lisieux, c'est de faire aimer l'amour. Ça rappelle le cri de Saint François d'Assise, « L'amour n'est pas aimé ». Elle écrit à sa sœur Céline, « L'amour ne se paie que par l'amour ». Elle résume dans cette expression-là la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur, comme dit Saint Paul, de l'amour qui est Dieu et qui invite à une réponse. L'amour pousse Thérèse dans la vie quotidienne à un dépassement continuel d'elle-même. Accueillir Dieu amour en elle, c'est prendre le risque de ne plus vivre que pour lui et que pour les autres. C'est un pari, le pari de la folie de l'amour. Et Thérèse a joué sa vie sur ce pari, jusque dans la souffrance, à tel point que dans une lettre à Céline, elle écrit « Quel bonheur de souffrir pour celui qui nous aime à la folie et de passer pour folle aux yeux du monde ». On juge les autres d'après soi-même. Et comme le monde est insensé, il pense naturellement que c'est nous qui sommes des insensés. Mais après tout, nous ne sommes pas les premières. Le seul crime reproché à Jésus par Hérode fut celui d'être fou. Il était fou, notre bien-aimé, de venir sur la terre chercher des pécheurs pour en faire ses amis, ses intimes, ses semblables. Lui qui était parfaitement heureux avec les deux adorables personnes de la Trinité. Elle dit « Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. L'amour peut tout faire. Les choses les plus impossibles ne lui semblent pas difficiles. Le cœur qui aime travailler avec amour, c'est-à-dire avec ferveur, il court, il vole, il ne trouve rien d'impossible et rien ne l'arrête. L'amour vous donnera des ailes, dit-elle aussi. Moins souvent cité que le mot amour, la confiance chez Thérèse est dynamique. Ce que l'eau est à la vie, la confiance l'est à l'amour. Indispensable pour grandir, mais ne s'embarrasse pas de démonstrations incompréhensibles. Avoir une confiance éperdue pour Dieu, c'est accepter de s'élever vers Dieu par l'ascenseur de l'amour, et non pas gravir le rude escalier de la crainte. C'est ce qu'elle dit quelques mois avant de mourir. Elle chasse la crainte de son cœur. La vie de Thérèse, ressemble au chant de l'Évangile où poussent en même temps bon grain et ivraie. Et comme nous, elle fait l'expérience de ses limites physiques dans la maladie qui la ronge, limites spirituelles dans l'épreuve de la foi, les limites affectives dans les blessures qui s'ouvrent à chaque séparation familiale. À Céline, l'année de son entrée au Carmel, Céline vient largement, l'année où elle entre, elle écrit « Quand le matin, nous ne sentons aucun courage, aucune force pour pratiquer la vertu, c'est alors le moment de mettre la cognée à la racine de l'arbre. C'est alors le moment difficile. On est tenté de baisser, de laisser tout là. » Et parce que Thérèse ne se croit pas supérieure, elle encourage les autres. Elle envoie à Marie Guérin, je vais vous faire une émission sur elle dans exactement 2 semaines, sa cousine. Elle envoie ce message. « Marie, si tu n'as rien, il ne faut pas oublier que Jésus est tout. Aussi, il faut perdre ton petit rien dans son infini tout et ne plus penser qu'à ce tout uniquement aimable. » Elle a tellement de paroles absolument admirables, on ne sait plus trop quoi citer. Voyez-vous, si nous mettons notre confiance, dit-elle, dans le bon Dieu, faisant tous nos petits efforts et espérant tout de sa miséricorde, nous recevrons autant que les grands saints. Cette dynamique de la confiance permet à Thérèse de marcher sans crainte. Elle sait que ce qui offense Jésus, comme elle dit, ce qui le blesse au cœur, c'est le manque de confiance. Elle dit aussi, ne nous lassons pas de prier. La confiance fait des miracles. Elle dit encore, je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. Alors, le troisième mot qui caractérise la spiritualité de Thérèse, c'est bien la miséricorde. Il n'y a pas de place chez Thérèse pour le découragement. Un enfant se relève toujours quand il tombe. Et s'il ne l'est plus seul, quelqu'un vient à son secours. La miséricorde est comme le bras de tendresse de Dieu, notre Père, dont la force maternelle nous relève toujours. Et Thérèse est consciente de ses faiblesses. Elle s'élance comme l'enfant prodigue vers Dieu. Oui, je le sens. Quand même, j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre. J'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenance miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. Alors, ce qui propulse Thérèse dans la miséricorde, c'est la confiance. Elle dit, si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Ici, on peut dire que tout est dit. Et la petite voix spirituelle de Thérèse de l'Enfant Jésus, de la plus grande sainte des temps modernes, s'ouvre devant nous, éclairée, comme par 3 puissants projecteurs, et qui sont l'amour, la confiance, puis la miséricorde. Je vous signale, on m'a demandé de faire quelques annonces, je vous signale que la liste des émissions de rencontres spirituelles est publié dans Jésus, Marie et notre temps, ainsi que dans L'Homme Nouveau, 2 journaux catholiques. Le Centre Christus, où j'ai donné une conférence il y a quelques semaines sur le Saint-Suaire de Turin, avec des diapositives, me signale qu'à compter de mercredi, le 2 avril, donc demain, il y aura une série de conférences sur la spiritualité de Maurice Zundel qui seront données tous les mercredis jusqu'au 23 avril. D'autre part, M. Gosselin du Grand Séminaire, qui s'occupe de jeunes à la paroisse Notre-Dame de Lourdes, m'a invité à donner une causerie vendredi soir. Donc, vendredi soir, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes au métro Berry-UQAM, des jeunes de 16 à 35 ans, et des autres sont les bienvenus, pourront à 7 heures réciter le chapelet Fiat créé par le cardinal Danils. C'est très beau. Et il y aura la rencontre des jeunes après, pendant quelques minutes, avec une pause café. Et à 20h, je donnerai cette causerie dans l'église. Je vous signale aussi que samedi, Marc Alexandre, qui fait les copies, cassette audio de ses émissions depuis le tout début, on est rendu à presque 450, eh bien, il va donner un récital de chant au Café Chrétien de Montréal, rue Saint-Hubert, 7537 rue Saint-Hubert, sortie métro Jean Talon. Samedi prochain, le 5 avril, à 8h, à 20h, c'est une entrée libre. Donc, il donnera un récital de chant, j'y serai. Je dois bien ça à Marc-Alexandre. Je vous rappelle que le Centre Christus pour la spiritualité de Maurice Zundel, demain soir, on peut téléphoner là-bas à 276-9433. 276-9433. J'ai signalé tout à l'heure le très beau livre de l'abbé Pierre Découvement, Thérèse et Lisieux, publié aux éditions du Cerf et qu'on peut se procurer chez Novalis. Je vous signale d'autres livres de Mgr Guy Gaucher. À l'époque, il n'était pas Monseigneur. C'est La Passion de Thérèse de Lisieux aux éditions du Cerf. Un très beau livre. Pierre Découvement a publié beaucoup aussi. Puis vous procurez Sur la Terre comme au Ciel aux éditions du Cerf. Et vient de paraître, il n'y a pas si longtemps, de Bernard Brault, Thérèse de Lisieux, sa famille, son Dieu, son message, chez Fayard, et aussi d'un auteur québécois, Fernand Ouellette, Je serai l'amour, paru chez Fides, un excellent livre. Je termine avec une brève prière de Thérèse de l'Enfant Jésus. Ô face adorable de Jésus, seule beauté qui ravit mon cœur, daigne imprimer en moi ta divine ressemblance, afin que tu ne puisses regarder l'âme de ta petite épouse sans te contempler toi-même.